privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, d'acclamer. J'ai soif de t'acclamer, d'acclamer. J'ai soif de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer.
À Jésus, le privilège que Dieu nous donne, c'est de l'adorer encore ce soir, c'est de l'acclamer encore ce soir. Acclamez encore le Seigneur. Oui, bien-aimés, c'est un véritable privilège pour nous d'être ici ce soir. C'est pour ça que je nous invite à prier d'abord notre Dieu. Rends grâce à Dieu qui a permis, qui t'a accordé la grâce, le privilège d'être encore ici ce soir. Dis-lui merci pour ta présence. Dis merci à Dieu pour le programme de carême qui suit son cours. Ce n'est pas par nos forces, c'est par sa grâce. Et c'est un privilège encore pour nous. Dis-lui merci pour le thème de ce jour. Merci pour ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as été distrait ou que tu as distrait ton voisin. Tu ne lui as pas permis d'écouter la voix de Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui de t'accorder d'être particulièrement attentif ce soir. Qu'il te revête d'un esprit d'attention. Prie, demande à Dieu de te disposer à recevoir de lui et non d'un homme. Prie pour l'oratrice. Qu'elle ne soit qu'un instrument qu'il va utiliser pour communiquer son message. Pour exhorter, pour édifier son peuple ici présent. Prie pour une transformation réelle et véritable dans ta vie. Prie et sois dans l'attente. Dispose-toi totalement. Sois dans l'attente de la visitation divine ce soir. Père, nous venons encore te dire merci. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Te disons merci de nous aider à recevoir de toi tel que tu as voulu. De nous disposer entièrement à ton écoute et de bannir tout obstacle sur notre chemin. Éternel notre Dieu, fortifie-nous. Transforme-nous selon le plan merveilleux que tu as pour chacun. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous te saisissons par l'esprit et non par la chair. Fais taire toute chair en nous et communique-nous ta grâce afin que nous ne retournons pas comme nous sommes venus. Nous nous levons contre les forces des ténèbres, contre les esprits méchants qui voudraient semer la distraction en ce lieu, qui voudraient semer la fatigue et la lourdeur, qui voudraient nous déstabiliser, empêcher que le message soit reçu. Nous les déclarons impotents et les vouons à l'échec au nom de Jésus. Père, rends-nous attentifs. parle en nos cœurs. Glorifie ton Saint-Nom ici maintenant. Rends ministère en ce lieu. Prends le total contrôle de la soirée et règne en juste maître. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien-aimé peuple de Dieu, nous avons commencé le troisième module intitulé « Le meilleur est à venir ». Nous avons jusqu'ici vu que nous devons choisir d'être meilleurs, que nous devons avoir le courage de recommencer, que nous devons être audacieux, mais alors positivement. Ce soir, je vais commencer par une question. Qui peut avouer n'avoir jamais échoué? S'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'a jamais échoué de sa vie, qu'il lève le doigt. Gloire à Dieu. Si petit soit ton échec, tu as quand même échoué. Que ton échec émane de toi ou pas, c'est-à-dire que tu portes la responsabilité de ton échec ou pas, tu as quand même échoué, n'est-ce pas? Tu as quand même échoué. Une chose est sûre et certaine, c'est qu'il y a des échecs qui font plus mal que d'autres. Et chacun de nous sait comment il s'est senti face à l'échec. Il faut cependant dire qu'échouer n'est pas la fin du monde. En effet, nous avons vu que lorsque nous tombons, nous devons poser de nouvelles fondations pour nous relever. Si nous le faisons, soyons sûrs que le meilleur est à venir. D'où notre troisième thème, n'est-ce pas? Ainsi, l'échec peut être un recul pour mieux sauter. Pour dire que quand on échoue, ce n'est pas toujours mauvais. Ça peut être reculé pour mieux sauter. C'est donc ton attitude, ta façon de prendre ton échec qui va compter par la suite. Or, la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'échec donc ne saurait être nécessairement pour notre mal. D'où le thème de ce soir, n'est-ce pas? Tire bénéfice de tes échecs. Il est question que tu tires bénéfice de tes échecs. Il sera donc question pour nous de tirer les leçons de nos erreurs ou de nos échecs. C'est-à-dire que lorsque nous avons eu à échouer, nous devons tirer des leçons. Ensuite, de voir l'effet positif de nos échecs, de nos souffrances. Qu'est-ce que nous avons eu de positif au travers de la souffrance, de l'échec par lequel nous sommes passés? Puis de réaliser que par nos échecs, Dieu peut nous utiliser à aider les autres à les prévenir de l'échec. Nous allons donc commencer par les leçons de nos erreurs, c'est-à-dire les leçons que nous tirons de nos échecs. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dès notre naissance, nous sommes appelés à grandir. Et dans le processus de notre croissance, nous devons passer par des apprentissages, des formations, des expériences, etc. pour être des personnes accomplies. Il s'avère que ce parcours connaît toujours des embûches, des erreurs, des imperfections, des faiblesses, bref, des échecs. Je vais prendre l'exemple du bébé. Quand un enfant naît, on est obligé de le porter. À un moment donné, il doit s'asseoir. Mais nous-mêmes, nous savons que ce bébé va connaître beaucoup d'échecs avant de finir par apprendre à bien s'asseoir, n'est-ce pas? On va voir la tête qui tombe, qui le balance toujours de côté. Quand il peut s'asseoir, il veut maintenant aller tout seul. Il commence à ramper même par le ventre. Chaque fois qu'il veut aller sur les genoux, il tombe. Et un matin, il réussit à se mettre sur les genoux. Au moment où il va déjà à genoux, il se rend compte que c'est comme si celui qui est debout là va un peu plus vite. Il faut que je me débrouille. Il essaye de se lever, il tombe. D'échec en échec, mais à la fin, il marche, n'est-ce pas? Ça, je vais prendre un autre exemple banal. Je veux verser un liquide dans une bouteille. Le liquide est dans une marmite ou même dans un verre. Alors, je verse. Compte tenu de la forme du verre ou alors de la marmite, le liquide se verse, n'est-ce pas? Après plusieurs tentatives, je commence à penser que ah, si j'avais un entonnoir ou alors si c'était un gobelet qui pouvait épouser, n'est-ce pas, qui pouvait être un peu plié pour permettre, pour diriger le liquide dans la bouteille, ça aurait été mieux. Donc c'est au bout de plusieurs échecs que je vais, n'est-ce pas, tirer des leçons. Malheureusement, le désir d'avancer amène plusieurs à ignorer leurs erreurs au lieu d'en tirer des leçons. Un cas simple et très récurrent, c'est celui des parents qui envoient leurs enfants à l'école. Oui. Tout au long de l'année, le parent se dit, ah, j'ai déjà acheté les cahiers, j'ai acheté les livres, j'ai même donné un répétiteur, il faut encore quoi? En fin d'année, l'enfant a échoué. Il n'a même jamais demandé le bulletin de l'enfant. Il n'a jamais demandé où sont tes feuilles. Quand l'enfant a échoué, il faut qu'il court maintenant derrière un enseignant qu'il connaît, une brebis galeuse, pour lui dire que l'enfant, si je ne veux pas qu'il échoue, je ne veux pas qu'il reprenne la classe. Alors, quand tu ne veux pas que ces enfants reprennent la classe, parce que tu penses que les livres que tu as achetés signifiaient qu'il a étudié, tu n'as même pas cherché à constater que cet enfant a 50 heures d'absence, ça veut dire qu'il est constamment absent. Tu ne connais même pas ton enfant, mais tu veux quand même qu'il avance. Il avance pour réussir ou pour échouer? C'est pour échouer, non? Le cas le plus dur, ce sont nos enfants qui sont en troisième. L'enfant a 6 de moyenne tout au long de l'année. En fin d'année, l'enfant a le BEPC. À la rentrée, on est derrière, partout, dans tous les lycées. L'enfant a eu le BEPC, je ne veux pas qu'il reprenne seconde. Troisième, je veux qu'il aille en seconde. Merci. Alors, est-ce que cet enfant peut réussir? Il va aller d'échec en échec. Tu n'as pas demandé qu'un enfant qui a 6 de moyenne du premier au troisième trimestre, comment est-ce qu'il a fait pour avoir le BEPC? Ils sont 2 par banc. Peut-être que le voisin était brave. On se comprend. Vous importunez les gens, chers parents. Je ne veux pas que mon enfant... Et ce n'est pas toi qui ne dois pas vouloir. C'est l'enfant qui doit travailler et réussir. Bien, nous constatons nous-mêmes que ce genre de comportement, c'est-à-dire avancer à tout prix, ne peut nous maintenir que dans l'échec ou nous enfoncer davantage. Mais bien aimé dans la foi, la première chose à faire ici, c'est d'abord d'avouer nos échecs. Ce qui n'est pas toujours évident. L'enfant a réussi, il a eu le BEPC. C'est l'entrée en seconde qui fait avancer l'enfant, ce n'est pas le BEPC. Parfois, on a honte, on use d'orgueil. Et que sais-je encore? Beaucoup cherchent à arranger leurs erreurs, mais n'y parviennent pas parce qu'ils ont du mal à les avouer. Alors, dans ta vie de chaque jour, si tu as échoué quelque part ou sur un certain plan, au lieu de te repentir, tu as plutôt honte et veux cacher ton erreur, tu ne pourras pas t'en sortir, tu ne pourras jamais t'en sortir. Je vais prendre le cas d'un élève qui cache sa copie. Il ne voudrait pas que le parent sache qu'il ne comprend pas les mathématiques. Il a 2/20, il cache, n'est-ce pas? Il va de soi que le parent ne pourra pas l'aider. Parce que c'est sachant que mon enfant ne comprend pas les mathématiques qu'il peut se débrouiller à trouver quelqu'un pour t'aider à sortir de ce tremplin. Le chrétien qui ne reçoit pas l'exaucement de ses prières, peut-être parce qu'il mène une mauvaise vie et cette vie constitue un blocage. Mais il a honte, il ne veut pas dire à un supérieur spirituel que voilà ma situation. Il se dit, on va connaître ses insuffisances spirituelles. On ne naît pas avec. On va dire qu'il n'est pas affermi, il ne connaît pas Dieu. Et il préfère sombrer tous les jours à faire les mêmes prières sans succès. Dans ton lieu de service, tu ne parviens pas à exécuter une tâche. Tu ne demandes pas à ton collègue de peur qu'il découvre tes insuffisances. Est-ce que le travail m'a marché? Bien-aimé, dis à ton voisin, avoue tes erreurs. Avoue tes échecs. Oui, mon frère, ma sœur, il faut d'abord avouer tes erreurs, ton échec. Ainsi, tu pourras faire le pas suivant, à savoir te poser la question, qu'est-ce qui t'a fait échouer? Pourquoi as-tu échoué? Ensuite, quelles sont les leçons que je tire de cette situation? Quelles sont les leçons que je tire de ces erreurs, de mon échec? Ce sont ces leçons qui te conduiront à la bonne remédiation. Regardons l'exemple du roi David. Cet exemple nous a été donné déjà dans notre document, dans 1 Chronique 13, versets 6 à 12. Je vous prie de donner lecture si quelqu'un trouve 1 Chronique 13, 6 à 12. Continuez avec les versets 11 à 15 de 1 Chronique 15. 11 à 15. Chapitre 15. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je vais préparer.
paix, car nous n'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les fils se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévi montaient l'arche
pour terre. Amen. Le verset 26 nous dit « Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'on sacrifia sept taureaux et sept béliers. » Alors, lorsque le roi David voulait faire monter l'arche de Dieu à Jérusalem, il a usé de négligence. Il n'a pas tenu compte des règles de jeu parce que l'arche, c'était la représentation de Dieu. On ne devait pas porter l'arche n'importe comment. Nous voyons donc, il a cherché deux personnes qui devaient conduire, n'est-ce pas, qui devaient conduire l'arche jusqu'à Jérusalem. Malheureusement, ce n'étaient pas des personnes initiées, si on peut appeler ça ainsi. Au moment où l'arche voulait tomber, Uzza, l'un des transporteurs, a eu les conducteurs du char, a eu, n'est-ce pas, s'est peiné. Il s'est dit, on ne peut pas laisser l'arche tomber. Il voulait faire du bien, il a touché à l'arche. C'était une chose sainte. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il en est mort. David a eu peur de Dieu, n'est-ce pas? Le texte nous dit que David a eu peur de Dieu. Est-ce que nous avons peur de Dieu ici? Lorsque nous sommes ici, quand on nous dit ne traversez pas là-bas, on dit il y a quoi là-bas? Tant que Uzza ne mourait pas, est-ce qu'il pouvait se rendre compte de la gravité de la chose? J'ai voulu marquer un petit temps d'arrêt ici pour dire faisons attention aux choses saintes, n'est-ce pas? Faisons attention aux choses saintes. Lorsque quelqu'un est déjà loin, lorsque quelque chose est déjà oint par l'Éternel, nous devons prendre du temps avant de nous y approcher. Même si nous sommes avec les pasteurs dans la cour, on monte, on descend, on rit. Quand le pasteur a déjà porté sa robe et se retrouve de l'autre côté, ne nous approchons pas n'importe comment, n'est-ce pas? Ça devient une autre histoire. Et Dieu est capable de frapper. Nous ne devons pas mourir faute de connaissance. David n'était pas du tout content. Parce qu'il s'est dit, mais Uzza voulait faire du bien. Cependant, il est revenu en lui. Il a tiré leçon de cet échec. Il est rentré et il a cherché les sacrificateurs qui se sont d'abord purifiés, n'est-ce pas, avant de porter l'arche. Est-ce que nous comprenons? Ils se sont purifiés avant de porter l'arche et c'était la joie. C'est pour ça que le verset 26 dit « Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Donc, on ne devrait pas toucher à cette chose n'importe comment. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de l'enfant prodigue dont on a même parlé ce matin, qui naturellement a dilapidé ses biens. C'était un échec, n'est-ce pas? Mais quand c'était dû, il a tiré des bonnes leçons. Il faut que je retourne à mon père. Il s'est repenti. Un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de l'Église évangélique du Cameroun. Avec des textes qui ne cadrent pas toujours avec la parole de Dieu. Je prends cet exemple. Avant, les délivrances, les prières de délivrance étaient interdites, n'est-ce pas? Au point où lorsqu'un pasteur faisait une prière de délivrance, il était mal vu, très mal vu même. Pendant ce temps, la parole de Dieu, qui n'a pas changé, dit dans Marc, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les malades seront guéris, ainsi de suite. On écoutait, mais on ne voulait pas que ce soit appliqué. Je bénis l'Éternel qui a permis que l'EEC prenne conscience, n'est-ce pas, du tort qu'elle causait au peuple de Dieu et qu'elle revienne à la parole. À la suite de cela, il y a le parler en langue. Je sais que pour certains, même jusqu'à aujourd'hui, c'est tabou. L'EEC ne voulait pas entendre parler. C'était comme si la parole de Dieu, c'était le charabia. Bon, la parole de Dieu nous a dit dans le livre de Marc que lorsqu'on a cru, on peut parler en d'autres langues. C'est la parole de Dieu. Et dans le livre de Paul aux Corinthiens, il dit « N'éteignez pas le parler en langue ». En réalité, le parler en langue nous édifie. Il nous permet de prier dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que vous avez une bonne communion avec Dieu, vous priez en langue, c'est entre Dieu et vous, ce n'est pas pour l'assemblée. Ça veut dire que vous priez poussé par le Saint-Esprit. Alors que quand nous prions par l'intelligence, nous pouvons demander ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, je bénis encore l'Éternel qui a permis qu'aujourd'hui à l'EEC, on enseigne sur le Saint-Esprit et même sur le parler en langue. Mais il faut dire que tu peux aussi tirer les leçons des échecs des autres, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un à côté de toi qui a échoué, tu tires aussi des leçons de ses échecs. Je vais prendre le cas de Naomi dans le livre de Ruth. Naomi s'était accordée avec son époux parce qu'il devait avoir famine. Ils ont quitté Bethléem, qui était la terre de pain, là où il devrait avoir du pain en abondance. Ils sont allés plutôt dans le pays de Moab. Ce n'était pas le chocolat pour elle. Lorsqu'elle y est arrivée, elle a perdu et son époux et ses fils. Elle est rentrée, n'est-ce pas, à Bethléem. Et elle a dit de l'appeler plutôt Mara. Est-ce qu'elle a reconnu son tort? Elle n'a pas reconnu son tort. Mais tous ceux qui sont restés à Bethléem, elle les a retrouvés là. Ils n'étaient pas morts de famine. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Alors elle a dit de l'appeler Mara. Parce qu'elle dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Au lieu de reconnaître que son départ pour moi n'était pas dans le plan de Dieu. Et nous tirons des leçons. Si je dois changer de ville ou me déplacer, tous les jours, on nous enseigne, il faut demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous devons toujours chercher à connaître la volonté de Dieu avant de nous déplacer. On a tiré cette leçon et ça va nous aider à ne pas tomber dans le même piège. Cette leçon, nous pouvons l'avoir avec un enfant qui a pris la voiture de son papa, il n'a pas de permis de conduire et puis le père ne dit rien, il a l'habitude de sortir avec cette voiture et un matin, il vient à cogner un enfant sur la route. L'enfant ne meurt même pas. Il va d'abord prendre soin du malade. La voiture est bel et bien assurée, mais le conducteur n'a pas de permis. Ça veut dire qu'il va porter toute la peine. Toi qui es à côté, tu tires tout simplement le son que si tu n'as pas de permis, ne passe pas. N'est-ce pas? Tu vas seulement tirer la leçon. Bien, nous basant donc sur ces quelques cas, nous pouvons dire chacun que c'est parce que je n'écoutais pas Dieu, parce que je ne me référais pas à lui, que mes projets et mes entreprises étaient voués à l'échec. Une fois que j'ai compris qu'il faut me rapprocher de Dieu pour les directives, c'est la solution pour éviter l'échec. N'est-ce pas? Lorsque je me rapproche de Dieu, je peux éviter l'échec. Au vu de ce qui précède donc, nous pouvons dire pour tirer profit de mes erreurs, je dois admettre mon erreur. Ça, c'est la première des choses, admettre mon erreur. Deuxièmement, analyser mon erreur pour en saisir les origines ou les causes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'a fait tomber dans cette erreur? Ensuite, tirer les leçons qui en découlent. Et enfin, changer de méthode. Alors, l'effet positif de tes souffrances maintenant, quand je parle de souffrances, des souffrances qui émanent de l'échec, n'est-ce pas? Pour avoir échoué, nous pouvons tirer profit. Comme nous l'avons dit au départ, les échecs ne sont pas rares. Les difficultés dans nos vies, les erreurs sont monnaie courante. Or, nous savons que face à la même situation, nous ne réagissons pas nécessairement de la même manière. Nous pouvons en tirer profit comme nous pouvons nous enfoncer définitivement. Revenons donc sur ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons voir quelques bénéfices que nous pouvons tirer de la souffrance, de l'échec. La souffrance te rend attentif. La souffrance te rend attentif et même prudent. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui traite un dossier qui parle d'argent. Il faut payer de l'argent quelque part et puis on donne l'argent en plus. Au moment où le problème est soulevé dans l'entreprise, ce n'est plus l'erreur, hein. C'est que non, tu avais fait le complot avec celui-là. Si tu ne payes pas, le surplus, tu vas payer les yeux de ta tête. Tu menaces de faire la prison, ainsi de suite. Mais lorsque tu réussis à t'en sortir, je ne sais pas si on va encore te dire avant que tu sois prudent. Tu vas être attentif toutes les fois que tu vas faire face à une situation. Et ça, c'est un avantage. Et si tu cultives déjà cela en toi, ça permet, n'est-ce pas, d'avancer positivement. Il faut dire que la souffrance te prévient, n'est-ce pas, des dangers plus graves. Chez nous, on dit que lorsque le serpent te mord, tu vois le mille pattes, fuis. Oui. La souffrance te corrige. La souffrance te corrige. Quand je parle de souffrance ici, c'est souffrance liée à l'échec, n'est-ce pas? Oui, ça te corrige. La souffrance te rapproche de Dieu, renforce ton intimité avec Dieu, t'amène à changer, t'amène à compter sur la grâce de Dieu. Vous allez voir quelqu'un de très orgueilleux qui veut seulement être comme les autres, ne sachant pas que c'est le prix à payer. On dit non, viens. Notre réunion là, c'est très bien. Il se retrouve dans la sorcellerie. N'est-ce pas? En fait, il voulait seulement être grand, mais il ne voulait pas la sorcellerie. Alors, c'est lorsqu'on commence à lui demander les chèvres qu'il se rend compte que c'est très compliqué. Il faut sortir. Il est prêt à tout. Tu vas lui dire, maintenant on va prier, il dit oui. Tu dis, on va jeûner 3 jours à sec, il dit d'accord. Et pendant ce temps, il se rapproche de Dieu, n'est-ce pas? Il va connaître Dieu. Dieu peut utiliser encore cette voie-là pour se révéler à lui. La souffrance te rend sage et mature. pouvez voir une petite fille de 10 ans qui est orpheline et qui a pris soin de ses 4 cadets jusqu'à ce que tous grandissent, parce qu'elle ne comptait pas sur quelqu'un d'autre. La souffrance te rend persévérant. Si nous prenons le cas de Anne avec Elkana et Peninnah, c'était déjà la polygamie. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Maintenant, ils se sont retrouvés dans la polygamie. Voilà Anne qui n'avait pas d'enfant. C'est l'échec qui a conduit à la souffrance, n'est-ce pas? Sa coépouse se moquait d'elle, ainsi de suite. Mais elle a prié, persévéré dans la prière jusqu'à obtenir Samuel. C'est la souffrance. Si on lui avait seulement dit que non, on prie comme ça. Mais comme elle avait envie d'obtenir Samuel, elle a prié, elle a persévéré jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. La souffrance t'enseigne l'humilité. Oui, tu te rabaisses pour demander secours même à celui que tu méprisais. Quand tu es dans la souffrance, la souffrance permet aussi de nous purifier. C'est dans la souffrance que nous nous repentons, n'est-ce pas? Quand on te dit repens-toi, tu es obligé de faire la vraie repentance, cette fois-là, la vraie. La souffrance, c'est pour faire éclater la gloire de Dieu, pour faire avancer l'évangile. Lorsque tu es passé par la souffrance et que Dieu t'a visité, tu vas témoigner, n'est-ce pas? Et pendant que tu témoignes, tu es en train de parler de Dieu et puis son nom ne fait qu'avancer. Si face à l'échec, tu as donc pu tirer des leçons, tu as pu tirer des bénéfices, tu peux devenir une ressource pour aider les autres à ne plus échouer. Dis à ton voisin, tu es une ressource divine pour prévenir les autres de l'échec. Oui, mon frère, ma soeur, tu es certainement une ressource divine lorsque tu es passé par l'échec et que tu as fini par la victoire. Dieu veut t'utiliser pour prévenir les autres de l'échec. Tu dois être une source d'inspiration pour les autres. David pouvait, suite à son expérience, dire aux gens, fais attention aux choses saintes, n'est-ce pas? Sans se tromper. L'enfant prodigue, même chose, il pouvait dire, le péché que tu vois là, il faut seulement rentrer à Dieu. Ça ne sert à rien de vouloir prendre la route que je te vois prendre là. Nous avons également nos enfants qui cherchent le bien-être. Ils disent qu'ils vont en Europe. On nous a parlé des enfants qui meurent dans la mer tout le temps, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont à la recherche du bien-être. Mais quand quelqu'un réussit à s'en sortir, il dit, Dieu est grand, ne tente même pas. La femme qui a connu beaucoup de tribulations dans son foyer, qui a commis beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs dans son foyer et que Dieu a fini par restaurer, elle peut être un bon conseiller matrimonial, n'est-ce pas? Dieu peut bien l'utiliser pour conseiller les autres. De même, un élève qui a connu beaucoup d'échecs dans son cursus scolaire et en même temps qui a fait face à la délinquance juvénile, mais que Dieu a au bout du temps restauré. Dieu l'a ramené sur le droit chemin. Il a eu cette grâce-là. Il peut devenir un bon encadreur, un bon leader académique ou scolaire. C'est lui qui va dire à son cadet, détrompe-toi. Ce n'est pas que c'est Dieu qui donne l'anglais, ça s'étudie. Parce que généralement, les enfants aiment bien dire, c'est Dieu qui donne l'anglais. Il n'étudie pas. Il saura comment ramener, n'est-ce pas, les plus jeunes sur le droit chemin. Bref, Nous devons être des témoignages vivants pour mieux sortir les uns les autres des échecs par lesquels nous sommes passés. Nos conseils doivent donc émaner des leçons tirées de nos multiples échecs, de nos multiples expériences négatives. Puisse l'Éternel, mon frère, ma sœur, faire de chacun de nous une ressource divine qu'il va utiliser pour sortir les autres de leur échec. Nous allons nous mettre sur nos pieds pour prier Dieu. Si tu reconnais que Dieu peut t'utiliser, que tu es une ressource divine, rends grâce à Dieu pour ce soir et pour cet enseignement. Dis merci à Dieu pour le message de ce soir. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a communiqué ce soir. Dis-lui merci pour toutes les fois que tu as connu un échec. Car il dit de lui rendre grâce en toutes choses. Dis-lui merci. Demande-lui pardon pour avoir ignoré tes échecs. Pour n'avoir pas avoué tes échecs. Demande-lui pardon de les avoir cachés par orgueil. Prie, demande à Dieu de briser l'orgueil en toi. Demande-lui de te briser véritablement pour te rendre malléable par lui. Demande à Dieu de te donner la sagesse de tirer les leçons de tes échecs au lieu de t'apitoyer sur ton sort. Prie qu'il t'aide à tirer bénéfice de tes échecs. Prie que tu commences à voir ton échec non comme un obstacle, mais comme un mirage pour te propulser vers ta destinée. Demande à Dieu de faire de toi une ressource divine qui va prévenir les autres de l'échec. Demande à Dieu de t'utiliser pour bénir les autres. Que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Merveilleux Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu fidèle, juste et parfait, nous te disons encore merci pour cette soirée, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour le plan merveilleux que tu as formé pour nous. Merci Seigneur de ce que tu passes par nos échecs pour nous façonner. Merci Père de ce que tu nous donnes de voir dorénavant nos échecs comme des mirages qui vont nous propulser vers l'avant. Merci de faire de nous des sources de bénédiction pour les autres. Nous te prions, ô Père, de nous fortifier davantage, de lever toute fatigue, toute faiblesse, toute lourdeur qui se fait ressentir en nous. Tu nous dis que c'est dans la faiblesse que tu manifestes ta puissance. Père, nous te glorifions de nos faiblesses parce que nous avons cette assurance que tu vas nous faire voir ta gloire dès à présent. Merci Yahvé pour le nombre que nous avons été. Nous prions, ô notre Dieu, que tu bouscules ceux qui ont le corps lourd, ceux qui tardent encore à venir au programme. Que tu rendes disponibles ceux qui se sentent très occupés. Que tu continues à disposer les cœurs à recevoir de toi, à être dans l'attente de ta visitation. Père, nous voulons voir ta gloire. Merci Seigneur de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Veuillez nous asseoir.